Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, Appel sur l'actualité lance le débat jusqu'à 9h temps universel. Aujourd'hui, quel est le climat des affaires en Afrique? Est-il favorable aux investissements, au boom économique dont tout le monde parle sur le continent? Y a-t-il encore des obstacles qui freinent les entrepreneurs, qu'ils soient africains ou étrangers? On parle souvent de la corruption, de l'instabilité politique, des lois encore trop contraignantes. Racontez-nous comment cela se passe dans votre pays. Rappelons-le, la semaine dernière, 33 milliards de dollars d'investissements avaient été annoncés au sommet États-Unis-Afrique. Le continent va dépasser les 5% de croissance cette année, l'année prochaine également. La Banque mondiale a publié un rapport annuel décrivant un vent de réforme en faveur des entreprises en Afrique. Faites-nous partager vos expériences et donnez-nous votre avis au 33 9 693 693 70 ou 09 693 693 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse email, appel@actu.rfi.fr et nos comptes Facebook et Twitter. Alors avant le débat du jour, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, pour mieux analyser l'actualité. Vous n'avez pas compris l'information, vous souhaitez des précisions, eh bien vous nous appelez et un journaliste de la rédaction vous répond. On commence avec un premier auditeur. Pierre, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Pierre, vous êtes à Libreville au Gabon et vous avez une question concernant l'épidémie Ebola.
Oui, oui. Bien sûr.
Vous avez d'ailleurs plusieurs questions, si vous pouviez nous poser d'ailleurs les deux premières pour commencer.
D'accord, merci bien. Donc, Sébastien, je voulais savoir comment attrape-t-on la maladie, donc cette pandémie-là, Ebola, et comment se transmet-elle?
Alors, c'est la première. Pour vous répondre, Michel Diaz est là. Quelle est votre seconde question?
Ouais, la seconde question, c'est quelles sont les dernières mesures prises par l'Organisation mondiale de la santé?
Voilà, c'est ça. Michel Diaz est là en direct dans le studio pour vous répondre. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors c'est vrai que cette épidémie là qui inquiète la planète entière hein, maintenant, on est autour de 1000 morts, l'Afrique de l'Est est de l'Ouest très touché principalement, hein, Guinée-Conakry, Nigeria, Libéria et Sierra Leone. Les deux derniers pays d'ailleurs sont sous état d'urgence depuis quelques jours. Déjà un peu de pédagogie, Michel, comment se transmet le virus?
Alors, les spécialistes expliquent que la contamination peut s'avérer importante si les transmissions interhumaines sont nombreuses et proches. À l'hôpital, par exemple, ou au sein d'une famille. Dans un moment d'urgence, il est possible de mal utiliser des moyens de protection, comme les blouses, les gants, les masques, ou la réutilisation de matériel comme les seringues. Tout doit être vérifié, mais les personnels de santé peuvent avoir un moment d'inattention à cause de la fatigue, car l'équipement de protection est lourd, encombrant dans des régions où il fait très chaud, par exemple. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Et puis, comme le répètent les autorités sanitaires, le contact avec la famille lors des rituels funéraires, des cérémonies incontournables dans les pays concernés, qui favorisent la contamination par la salive, le sang, les excréments, tous les fluides biologiques encore présents sur des vêtements, des draps ou des objets ayant appartenu à la victime.
Alors Michel, qu'en dit-on du côté de l'Organisation mondiale de la santé ?
Alors, l'OMS parlait encore il y a à peine un mois et demi d'une crise sous-régionale qui requiert une action ferme des gouvernements et l'organisation avait décidé de tirer la sonnette d'alarme lors d'une réunion interpays en réponse à cette flambée épidémique. Aujourd'hui, le comité d'urgence de l'organisation onusienne réuni la semaine dernière a déclaré que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola était une urgence de santé publique de portée internationale. Et en l'absence de vaccin, il faut absolument prévenir. Rappelons que l'apparition brutale d'une forte fièvre dans la semaine qui suit la contamination s'accompagne d'une grande faiblesse, de douleurs musculaires, de maux de tête et irritation de la gorge, suivent des hémorragies, des vomissements et des diarrhées, entre autres. C'est pourquoi il est important que les équipements médicaux soient stérilisés et désinfectés régulièrement. Les personnes suspectées mises en quarantaine et les morts par Ebola doivent être inhumées rapidement et leurs effets personnels brûlés, sans oublier le lavage des mains pour les populations comme pour les personnels de santé. Quant aux aéroports, une inspection méthodique des voyageurs est effectuée par du personnel portant masque et gants et si un cas est suspecté, il doit être immédiatement mis à l'isolement. Alors, il faut rappeler encore de la part de l'OMS qu'elle estime les centres de soins et les hôpitaux manquant de matériel et de personnel, évidemment. Surtout du personnel formé à la maladie, car bien entendu, c'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest fait face à ce virus Ebola. Et puis, l'OMS souhaite aussi que les chefs d'État s'adressent directement à la population pour mieux l'informer, avec des relais locaux, par exemple, comme les chefs de village et les représentants religieux, pour rappeler les principes de base de sécurité, ne pas approcher un malade ou un mort et se laver régulièrement les mains, car le virus se transmet par simple contact. Il faut aussi que la population prenne conscience qu'un traitement précoce augmente les chances de survie, alors que pour l'instant, beaucoup estiment que les médecins ne peuvent rien faire. Enfin, autre mesure importante, limiter les déplacements de population pour limiter les risques de propagation du virus. Des exemples de précautions que l'on répète à longueur de journée, mais qui me semblent encore utiles, puisque la propagation se continue.
On fait jamais assez de pédagogie dans ce domaine. Pierre, vous avez encore une question pour Michel Diaz.
Oui, Sébastien. La troisième, c'est celle-ci. Y a-t-il risque de propagation généralisée dans tout le continent africain et au-delà?
Effectivement, des malades sont maintenant hospitalisés aux États-Unis, en Espagne également. Michel, le risque est-il planétaire, là?
Alors évidemment, ça reste un risque, mais il faut remonter à 2 années en arrière, au moment où l'on a commencé à beaucoup parler d'Ebola. Ce virus avait et continue d'avoir la particularité de disparaître aussi vite qu'il surgit, mais pas toujours au même endroit. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait penser, au moment de l'extension de l'épidémie, que le virus était différent. Et puis, il a été question d'épidémies importantes lorsque le nombre de personnes contaminées puis décédées est passé à 3 chiffres. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Sébastien, la maladie a tué par centaines. Et malgré cette progression, il s'agit de la plus forte épidémie d'Ebola depuis l'année de sa découverte en 1976. Certains scientifiques, dont le co-découvreur du virus, estiment qu'une contamination au-delà du continent est improbable. Même si un porteur du virus voyageait en Europe, aux États-Unis ou dans une autre partie de l'Afrique, cela ne donnerait pas lieu à une épidémie majeure, rajoutait-il. Il ne serait pas inquiet d'être assis à côté d'une personne porteuse tant que celle-ci ne lui vomit pas dessus. La plupart des personnes infectées, évidemment, vivent avec des malades. Il s'agit de proches ou de personnel médical. On en a parlé tout à l'heure. Et pour autant, il faut contenir le virus dans les 3 pays que sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et donc, dorénavant, le Nigeria. De nombreux dispositifs de contrôle ont d'ailleurs été déployés, notamment dans les aéroports, avant l'embarquement et à l'arrivée à destination de passagers venant des 4 pays considérés à risque. Certaines compagnies ont carrément choisi l'option de suspendre leur vol vers ces pays.
Merci beaucoup, Michel Diaz. Merci à Pierre qui nous appelait depuis Libreville. 339 693 693 70. Nous sommes en ligne avec Kalilou. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à toute l'équipe de la pièce de l'actualité.
Kalilou, vous êtes à Cotonou au Bénin et vous aussi, vous aviez des questions concernant le virus Ebola. Quelle est votre première question?
La première question concerne les 2 Américains qui ont été infectés par le virus. On a appris qu'ils ont été soignés grâce à un sérum expérimental. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où provient ce sérum et comment a-t-elle été trouvée?
Alors effectivement, après avoir reçu plusieurs injections d'un sérum expérimental, un médecin américain et son assistante qui avaient contracté le virus au Libéria ont montré des signes de rémission, un espoir, c'est plutôt positif. C'est 2 bénévoles en fait de l'ONG Samaritan Spurs qui ont reçu ce traitement et puis ont été rapatriés aux États-Unis. 3 des spécialistes d'Ebola les plus renommés au monde ont appelé mardi à permettre la délivrance d'un traitement expérimental aux populations d'Afrique de l'Ouest frappées par l'épidémie. Michel, que sait-on sur ce sérum? D'où vient-on et comment est-ce qu'on l'a trouvé?
Alors, comme le rappelle Kalilou, il s'agit d'un traitement expérimental, vous l'avez précisé. Ce sont des anticorps qui ont été testés jusqu'à présent sur 8 singes, dont 6 ont survécu. Le principe, élaboré par une société californienne aux États-Unis, consiste à répliquer des anticorps fabriqués naturellement par des souris infectées et les injecter chez l'homme, car l'être humain aurait une réaction modérée au virus. Les résultats de ces études ont été publiés dès 2012. Ces 2 Américains, donc, ont bénéficié de ce traitement à titre exceptionnel, une pratique dite du cobaye, car il teste ce produit en tant que professionnel et conscient du risque, donc à caractère expérimental. Mais cet essai sur 2 individus ne suffit évidemment pas à prouver quoi que ce soit. Il faut se souvenir que la fièvre hémorragique Ebola a un taux de mortalité situé entre 25 et 90% et qu'il n'est donc pas certain que ces personnes seraient mortes si elles n'avaient pas pris le traitement.
Kalilou, vous aviez d'autres questions concernant l'épidémie?
Et vous avez dit que le sérum a été trouvé depuis en 2012. Alors, pourquoi expliquer qu'on en parle après que les deux Américains aient été infectés?
Allez, effectivement, il y a une polémique. Hein. On utilise ce sérum alors qu'il a quelques années quand même déjà qu'il a été découvert.
Oui, en fait, il y avait eu un précédent avec une autre scientifique à l'époque de la publication et dont on a peu parlé, donc, hein, puisqu'on en reparle aujourd'hui. L'épidémie n'était pas aussi importante, bien sûr. C'est peut-être une des raisons. Aujourd'hui, il ne semble pas encore question d'utiliser ce traitement à grande échelle, même si des scientifiques, comme vous le rappeliez tout à l'heure, comme Peter Piot, le co-découvreur de virus, estime qu'il est temps de faire bouger les choses, mais cela pose évidemment des questions d'éthique. Face à la pression, ces spécialistes, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la semaine dernière donc qu'elle allait saisir un groupe d'experts sur ces aspects éthiques, justement vis-à-vis de l'utilisation éventuelle d'un traitement expérimental. Les conclusions sont attendues demain, mardi, mais les experts donc doivent se réunir cet après-midi à huis clos à l'OMS à Genève.
Khalilou, vous aviez une dernière question à propos de ce sérum.
Oui, étant donné la vitesse de la propagation du virus, je veux savoir si ce sérum pourrait être disponible pour tout, si oui, quand.
Effectivement, Michel, est-ce qu'il peut être commercialisé? Et puis à quel terme, à quelle date?
En fait, pour tester véritablement cette technique, il faut le faire à grande échelle et au vu du nombre de malades potentiels dont on parle tous les jours, cela semble opportun. Reste, comme toujours, que ces traitements expérimentaux coûtent très cher et surtout que leur production ne correspond pas aux besoins. Clairement, il n'y en aurait pas suffisamment pas suffisamment pour tout le monde. Mais d'autres pistes de recherche sont en cours. Là encore, et c'est difficile à entendre lorsque l'on fait le bilan de cette épidémie 2014, il faut du temps pour vérifier leur efficacité scientifique. Donc, a priori, pas encore de vaccin ou de traitement pour cette épidémie. Il faut attendre la réponse demain des experts.
Encore des étapes à franchir. Merci beaucoup, Khalilou, de nous avoir joints depuis Cotonou. Bénin, merci à Michel Diaz d'avoir pris le temps de nous donner toutes les précisions sur cette épidémie Ebola. 639 693 70 si vous appelez de l'étranger, 09 693 2x70 si vous appelez de France. Notre adresse email également, appel@actu.rfi.fr pour nous joindre. N'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous joindre. Un nouvel auditeur au standard, il s'agit de Fiacre. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de RFI en Centrafrique, je suis Fiacre et Gabirol.
Vous êtes à Bangui, effectivement, la capitale centrafricaine, et vous avez des questions concernant la loi anti-homosexualité annulée par la justice en Ouganda. Quelle est votre première question, Fiacre?
Bon, monsieur Sébastien, j'ai suivi ici l'antenne de RFI, la Cour constitutionnelle ougandaise a décidé de retirer la loi anti-homosexuelle. Et pourtant, les autorités ougandaises, ainsi que le président de Raymond Séveni, étaient très fermes à ce sujet. Alors, face à ce sujet, j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui a motivé le retrait de cette loi anti-homosexuelle? Y a-t-il une pression internationale?
Alors, pour vous répondre, Antoine Cavallero est là avec nous en direct en studio. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien, bonjour Fiacre et bonjour à tous.
Alors, effectivement, les lois ont été annulées, les lois très controversées depuis cette promulgation en février. Il faut savoir qu'en Ouganda, l'homosexualité est punie de prison à vie. Le texte punissait également la promotion de l'homosexualité et obligeait notamment de dénoncer les gays aux autorités. Cette loi, elle avait entraîné un tollé des défenseurs des droits de l'homme et beaucoup de pays comme les États-Unis, le Danemark ou les Pays-Bas avaient décidé de suspendre leur aide économique à l'Ouganda. Qu'est-ce qui justifie l'annulation de cette loi anti-homosexualité? Et puis, est-ce que ça fait suite à des pressions internationales, Antoine?
Oui, donc, il y a 10 jours, la loi anti-homosexualité a été annulée par la Cour constitutionnelle vendredi 1er août. Suite à une requête d'un groupe de défenseurs des droits des homosexuels, les 5 juges de la Cour ont déclaré le texte inconstitutionnel. En effet, après que la loi ait été promulguée le 24 février dernier par le président Yoweri Museveni, 10 personnalités ougandaises, des académiciens, des journalistes, des députés, dont un du parti au pouvoir, et des militants des droits humains ont contesté la constitutionnalité de la loi. Premier argument, le quorum. Pour une telle loi, la constitution ougandaise exige un quorum, c'est-à-dire la présence d'un tiers de l'Assemblée pendant le vote. Selon les requérants, le nombre de députés présents était inférieur au quorum le 20 décembre 2013, jour du vote de la loi. L'État a bien essayé de se défendre en affirmant qu'il n'y avait pas de preuves sur l'absence des députés, mais les juges ont donné raison aux militants. Le quorum n'a pas été atteint, la loi est donc inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle aurait également pu se baser sur les autres arguments des défenseurs de la cause homosexuelle. Pour eux, la loi anti-gay violait les droits constitutionnels à la vie privée, à la dignité, à ne pas être victime de discrimination et à ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais le contenu de la loi n'a pas été abordé, les droits humains n'ont pas pesé dans la décision des juges, il s'agit d'un jugement uniquement sur la forme.
Et qu'en est-il des supposées pressions internationales, Antoine ?
Selon les détracteurs de la loi, Museveni aurait promulgué ce texte pour séduire les électeurs ougandais. La présidentielle de 2016 approche à grands pas et l'homophobie est largement répandue en Ouganda, une homophobie abondamment relayée par les influentes églises évangéliques. Mais avec cette loi, Museveni s'est aussi attiré les foudres des bailleurs de fonds internationaux. Des sanctions économiques ont été prises contre l'Ouganda. La semaine dernière, Museveni s'est rendu aux États-Unis pour le sommet USA-Afrique. 3 jours avant son départ, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. L'affaire est d'autant plus curieuse que normalement, la Cour devait traiter la requête des opposants de la loi en septembre. Ce jugement anticipé suscite donc les interrogations. Certains spécialistes et même certains militants de la loi, comme le pasteur Martin Sempa, ont vu dans cette annulation un moyen pour le président ougandais de se faire bien voir des Occidentaux d'un côté et de ne pas perdre la face auprès de ses électeurs de l'autre.
Fiacre, vous aviez d'autres questions ?
Oui, monsieur Sébastien, j'ai une dernière question.
On vous écoute. Fiacre, vous êtes avec nous ?
Oui, je disais, est-ce que cette décision est-elle définitive ?
Alors, Antoine, est-ce que ça y est, c'est plié, le dossier est clos, ou alors il reste quand même, ça peut encore évoluer ?
Ça va évoluer, les partisans de la loi ont toujours prévenu qu'ils iraient jusqu'au bout, qu'importe les sanctions occidentales. 100 députés ont déjà signé une pétition appelant à un nouveau vote de la loi. Problème, pour revoter une loi en Ouganda, il faut relancer le processus législatif, ce qui peut prendre des années. Déterminés, les députés pro-loi veulent contourner la réglementation parlementaire pour permettre un revote immédiat. Le pouvoir a lui aussi répondu à la Cour constitutionnelle. Samedi 9 août, le représentant légal du gouvernement a fait appel à l'annulation. C'est donc la Cour suprême, la plus haute juridiction en Ouganda, qui va devoir trancher. Toujours samedi, une centaine de militants et de sympathisants gays se sont rassemblés pour une marche des fiertés. Ils comptaient fêter l'annulation de la loi anti-homosexualité. Ils ont finalement appris la décision du gouvernement. Certains n'ont pas été surpris, mais se sont dit confiants quant à l'issue de leur combat. La bataille n'est donc vraiment pas terminée.
On aura encore donc beaucoup de développement et l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans Appel sur l'actualité. Merci beaucoup Antoine Cavallero de nous avoir expliqué, d'avoir fait le point sur cette loi anti-homosexualité. On salue Fiacre qui nous appelait de Bangui en République centrafricaine. Restez avec nous, on va marquer une petite pause très bientôt, puis ce sera le journal. Et bien sûr, dans 10 minutes, et bien ce sera le débat. Le climat des affaires en Afrique. N'oublions pas que 33 milliards de dollars d'investissement viennent d'être annoncés au sommet États-Unis-Afrique. Le continent, beaucoup d'espoir économique autour du continent africain. Il va dépasser les 5% de croissance cette année, 5,4%, il me semble, de mémoire. On attend même 5,8% de croissance pour l'an prochain. La Banque mondiale a publié un rapport annuel décrivant un vent de réforme en faveur des entreprises en Afrique. Donc, de l'optimisme pour l'avenir économique africain et ses entreprises. Et pourtant, les progrès sont lents, la corruption, l'instabilité, les lourdeurs administratives, entre autres, qui freinent les investissements. Alors, comment faire des affaires en Afrique? C'est la question du jour. Faites-nous partager vos expériences, donnez-nous votre avis. 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse mail, appelaupluriel.actu@rfi.fr, ainsi que nos comptes Facebook et Twitter.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.